Athénagore d'Athènes. Sainte Athénagore d'Athènes. Alors là, on peut enregistrer. Alors, nous possédons de ce personnage dont on ne sait rien par ailleurs.
C'est comme l'Athénagore.
Voilà. On ne sait rien sur lui, sur sa vie, mais on a deux textes qui nous sont parvenus, dont un texte plutôt apologétique qui est une supplique en faveur des chrétiens, qui prend un peu la forme du libelle, vous savez, quand on demande quelque chose à l'autorité. Mais on pense que peut-être que ça a été la forme primitive, c'était ça. En tout cas, ça a été retravaillé pour être publié comme une œuvre plus longue, parce que sinon l'empereur il n'aurait certainement pas écouté ça. Donc la supplique au sujet des chrétiens, il y a un second texte qui s'appelle « Sur la résurrection des morts », dont l'authenticité a été discutée, l'attribution disons, et un bon nombre d'érudits qui pensent que c'est authentique, que c'est de lui, hein, donc de cet Athénagore. Alors cette supplique au sujet des chrétiens, elle s'adresse simultanément à l'empereur Marc Aurèle et à son fils, devenu régent, co-régent avec Marc Aurèle, Commode. Vous savez, c'est le film Gladiator, hein, ouais. Pour vous situer. Oui, alors comme oui, un peu voilà, un sanguinaire. Moi, je me souviens encore que notre professeur de 6e nous disait retenez que Commode n'était pas Commode. Voilà, j'ai retenu ça. Oui. Alors du coup, le fait que la co-régence, du fait que le texte ait été produit pendant la co-régence de Commode et de Marc Aurèle, laisse entendre qui peut être daté, enfin le fait dater entre 176-180, vous voyez, donc milieu de la deuxième moitié du deuxième siècle. Alors certains, mais disent que ce texte a été produit à la suite de la grande persécution dont les églises de Vienne et de Lyon ont été les victimes en 177. Mais c'est pas avéré. Enfin, on n'est pas sûr. En tout cas, il réfute les trois accusations populaires qui étaient toujours à la base de la critique du christianisme. Autrement dit, l'accusation d'athéisme, l'accusation d'inceste et l'accusation d'anthropophagie, de cannibalisme. Donc, athéisme à cause du refus de prêter serment, enfin d'adorer l'empereur, et aussi de rendre un culte aux divinités officielles de la cité. Inceste parce que on les soupçonnait de ça, du fait qu'ils se réunissaient la nuit. Et avec la discipline de l'arcane, justement, entre eux. Donc les gens mal pensants vont immédiatement projeter leurs mauvaises idées. Et puis l'anthropophagie à cause de l'Eucharistie, hein, tout simplement. Donc on a alors l'auteur est visiblement loin d'être un sot, hein, c'est vraiment un philosophe. Et donc il accorde la plus grosse partie de sa supplique à la réfutation de l'accusation d'athéisme. Alors il commence par une captatio benevolentiae sur trois chapitres, alors les chapitres sont courts, hein, donc c'est trois paragraphes, une page quoi, où il loue la tolérance du souverain, et puis ensuite il va réfuter l'accusation d'athéisme en disant que le christianisme est un monothéisme car Dieu ne peut être qu'un. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Il développe ça dans les chapitres 4 à 12, où il montre que, enfin, alors là aussi, il fait appel à la raison des païens en leur disant vous-même, vous-même, les plus éclairés d'entre vous, vous savez bien qu'au-delà de la foule des panthéons, vous tendez vers la reconnaissance d'une divinité unique. Et ce que vous cherchez comme à tâtons, ben nous, on en a la révélation à travers le judaïsme. Donc il y a la certitude de l'existence d'un Dieu, du vrai Dieu, dont à qui on rend un culte. Et donc du coup, il réfute aussi l'idée que les chrétiens ne soient pas utiles à l'État, puisque dit la multiplicité des divinités sont soit rien, soit des démons. Vous rendez des cultes soit à rien, soit à des démons, donc c'est pas utile à l'État. Nous, on a trouvé le vrai Dieu et on rend un culte au vrai Dieu, donc ça, c'est utile à l'État. Donc il renverse l'accusation, mais vous voyez, quasiment tous les apologètes ont eu cette intuition. Alors, donc autrement dit, il dit « Les chrétiens ne peuvent, en raison, honorer les dieux qui ne sont que des idoles, ou des démons, et ça il le développe sur des chapitres 13 à 30, en visitant tous les mythes grecs, romains, etc. Donc c'est extrêmement, extrêmement fouillé. Et puis il va traiter les deux autres accusations, chapitres 31-36, en disant que ce sont jamais que les manifestations haineuses d'une populace dépravée face à la vertu des chrétiens, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas parce que, de fait, déjà à cette période, il y a l'idée de l'ordo virginum, l'ordo viduarum, donc il y a déjà des états de vie de célibat, et donc de fraternité chrétienne sans rapport sexuel, vous voyez. Et ça n'entre pas dans la mentalité dépravée, justement, des gens qui vivent dans les grandes villes de l'Empire. Donc il va dire que ces ragots sont simplement des ragots destinés à dénoncer des gens vertueux et, en vertu de la dénonciation, à obtenir leur bien. Très habilement, et puis alors, il dit, de toute manière, ces pauvres gens sont eux-mêmes les dupes de leur propre divinité qui, à travers les mythes, sont toutes marquées par toutes ces dépravations. Vous voyez, les hommes ont projeté leur dépravation sur les dieux, et ensuite les autres imitent leurs dieux. Et habilement, Athénagore renvoie la question de la raison, finalement, dans le camp de l'adversaire. Puisque la pensée païenne incline au monothéisme, à un monothéisme philosophique, comment l'autorité de l'État peut-elle obliger au polythéisme? Elle devient irrationnelle dans ses décisions. D'ailleurs, il dit « Comment accuser d'athéisme des gens alors qu'on n'est même pas d'accord sur ses propres dieux ?» Vous n'êtes même pas sûr de vos dieux. Alors comment vous pouvez nous prétendre en savoir mieux, plus que nous qui le savons ? Voilà, par exemple, il dit ceci. « Quand on reproche de ne pas s'attacher aux mêmes dieux que les cités et de ne pas les reconnaître, il est de leur part tout à fait puéril. » Car ceux qui nous font le reproche d'athéisme parce que nous n'avons pas les mêmes dieux que ceux qu'ils connaissent ne sont même pas d'accord entre eux à propos des dieux. Les Athéniens rangent Célé et Métanire parmi les dieux, les Lacédémoniens Ménélas pour qu'ils sacrifient et organisent des fêtes, les habitants d'Ilion, enfin Troie, Hector, bien qu'ils ne supportent même pas d'entendre ce nom, etc., etc. Et puis il continue. Si donc eux-mêmes sont en désaccord entre eux au sujet de leurs dieux, pourquoi nous reprochent-ils de ne pas penser comme eux? Et les croyances égyptiennes sont certainement ridicules. En effet, ils se frappent la poitrine dans leur temple pendant leurs grandes fêtes, comme s'ils célébraient des morts, et ils sacrifient comme si c'était en l'honneur de Dieu. Et cela n'a rien d'étonnant, venant de ces hommes qui, du moins, font des bêtes sauvages des dieux, qui se rasent la tête quand elles meurent, qui les ensevelissent dans des temples et organisent des lamentations publiques. Pour les chats, sûrement. Si donc, nous sommes impies parce que notre piété envers Dieu n'est pas semblable à la leur, toutes les cités, tous les peuples sont impies. En effet, tous ne reconnaissent pas les mêmes dieux. Alors, la réponse des autorités, c'était on ferme les yeux, on considère que, enfin, que c'est une sorte de transitivité entre les panthéons, que Minerve, c'est la même chose qu'Athéna, qu'Athéna, c'est la même chose que. Bon, voilà, donc on fait des associations, mais qui sont parfaitement, comment dire, artificielles. Donc voilà ce que dit Athénagore. Donc un texte intéressant. Et puis alors le deuxième texte, c'est sur la résurrection des morts, en deux parties. Alors il dit, par conséquent, il parle d'abord, en marge de toute doctrine, tout discours touchant la vérité, croit une part de mensonge. Donc il dit, il y a des gens qui cultivent avec soin la mauvaise semence pour corrompre la vérité. Et donc, encore une fois, c'est un texte apologétique pour confondre les gens qui ridiculisent la résurrection. Souvenez de l'aventure qui était la mésaventure qui est arrivée à Saint-Paul, à Athènes, justement, Athénagoras d'Athènes, sur l'Aréopage, où les sages athéniens s'étaient moqués de Paul quand il parlait de l'espérance de la résurrection, puisque finalement toute la pensée stoïcienne, platonicienne, elle visait à se défaire du corps qui était considéré comme prison, hein, soma, sema, hein, le corps c'est la prison. Et alors là, il va répondre à ces critiques grossières sur la résurrection. Il dit, par conséquent, je crois que ceux que cela tourmente ont besoin d'un discours en deux parties. Vous voyez, il a fait Sciences Po, hein. L'une pour défendre la vérité, l'autre pour l'exposer. Je ne sais pas si nos profs auraient été d'accord pour ce genre de truc. Alors, l'une pour défendre la vérité, l'autre pour l'exposer. Celle pour défendre la vérité s'adresse aux incrédules et aux hésitants. Celle qui expose la vérité aux esprits bien disposés et qui accueille la vérité avec faveur. Aussi faut-il que ceux qui veulent examiner ces questions considèrent quelle nécessité préside à chacune d'entre elles. Voilà, alors, il commence par réfuter donc les objections, puis ensuite il développe son idée sur la résurrection. Alors, il part de l'anthropologie chrétienne, qui est unitaire, vous savez. L'homme est à la fois esprit et corps. Et même dans un passage de la première aux Thessaloniciens, on dit il est esprit, âme et corps. Donc. Alors, la mort détachant le corps périssable de l'âme immortelle, et le dessein étant que l'homme soit un esprit incarné, il faut donc qu'il ressuscite. Hein, si l'homme est créé indissolublement corps et âme, et si la mort fait disparaître le corps, donc l'âme se trouve dans un état de violence qui est contraire à sa nature, donc contraire à la nature humaine, et donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, l'âme récupère le corps. Alors, évidemment, la révélation biblique va dire que la mort est entrée dans le monde à cause du péché, et que la rédemption vient justement nous arracher au pouvoir de la mort. Et donc, si on ne meurt plus, ben, notre corps se détache plus de l'âme. Donc, voilà, il faut qu'il passe par cet épisode de la résurrection. Alors, tous ceux qui disent que c'est impossible, Athénagore leur dit, mais si, c'est possible, puisque c'est possible à Dieu, même si Athénagore conçoit encore le corps d'une manière assez matérielle. C'est-à-dire, il dit, après tout, Dieu qui a réussi à faire des choses à partir d'une matière ou à partir de rien, eh bien, il peut très bien remettre ensemble des morceaux qui sont entrés dans d'autres combinaisons, etc. Et à ce moment-là, ça permet de répondre aux objections sur et si je me fais manger par une murène dans l'Adriatique, ou aussi je me fais dévorer par un lion en Syrie, les morceaux vont rentrer dans la composition du lion, de la murène, puis après dans d'autres, etc., etc. Puis à la fin, des fins, on récupère tous les morceaux. Donc il a un peu une vision, vous voyez, un peu matérialiste de la résurrection, mais... qui n'est pas encore la vision que d'Origène. Origène dit on s'en fiche, parce que de toute manière Dieu fait toute chose nouvelle, une matière nouvelle et des cieux nouveaux, une terre nouvelle, etc. C'est à partir de cette matière incorruptible que l'âme reprendra, se refera un corps, en somme, que Dieu elle se refera un corps puisqu'elle a la puissance informante du corps.
Mais elle fera le même alors.
Comment ?
Elle fera le même.
Un corps qui sera l'image de notre âme. Donc il y aura beaucoup de surprises. Donc plus l'âme sera belle, et plus le corps sera beau. Mais c'est le corps éternel. Donc c'est l'idée de redondance en quelque sorte. La splendeur de l'âme va s'irradier dans le. Diffracter, si vous voulez, dans la beauté du corps. La beauté du corps sera. Alors maintenant, est-ce que le corps restera sexué ? On n'en sait rien. Probablement, puisque dans l'état paradisiaque, le premier Adam était sexué, même si sa fécondité, peut-être, parce qu'on dit qu'ils se sont unis qu'après le péché. Hein. Donc, ce qui veut dire que la fécondité dans l'état paradisiaque était. C'était certainement autre chose, mais l'état paradisiaque n'a pas duré longtemps. Et puis, donc la sexualité, c'est dans l'état déchu, hein, souvenez, Eros, Thanatos, là, c'est pour lutter contre la mort, hein, globalement, avec l'idée de procréation. Dans le royaume des cieux, comme dit notre Seigneur, il y a plus, on ne prend plus ni mari ni femme. On est comme des anges dans le ciel. Et c'est sûr que ce n'est pas au ciel qu'on va procréer. Hein. Parce qu'il n'y aura pas de nouvelles âmes qui vont être... Enfin, de nouveaux êtres humains qui vont être créés dans l'état eschatologique. Donc, la sexualité, ça sera fini. Hein. Néanmoins, il y aura certainement... La sexualité, ça sera fini. Mais la sexuation, si on peut dire, le fait d'être homme ou femme, ça demeure pour l'éternité. Hein, ça demeure... de fait que le second Adam, quand il est ressuscité, il est devenu homme et il est ressuscité comme homme. Il n'est pas ressuscité comme être asexué, comme une sorte de synthèse des deux. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'homme ou femme, on restera dans le ciel homme ou femme, mais on vivra notre caractère sexué d'une autre manière que dans le monde d'en bas, enfin le monde déchu.
Le caractère sexué, ça ne peut pas se limiter au caractère sexuel. Hein.
Non.
L'anthropologie chrétienne, c'est comme ça.
C'est pour ça que l'anthropologie chrétienne, vous voyez, elle part pas de l'androgyne platonicien, là, qu'on coupe en deux, là. Vous savez, vous connaissez ce mythe je ne sais plus c'est dans quel dialogue. C'est peut-être le banquet, oui. Alors donc les hommes étaient comme des boules avec quatre jambes, quatre bras, etc. Et alors ils montent à l'assaut de l'Olympe, c'est assez embêtant. Alors Zeus les foudroie, il les coupe en deux, un peu comme des limandes, toc, ils se retrouvent plats comme des limandes. Et alors du coup ils n'ont plus que deux jambes et deux bras. Hein. Et puis, ce qui explique que chacun recherche sa moitié. Platon était avant de ce mythe pour expliquer l'attirance sexuelle. Alors il dit évidemment, il y en a qui étaient hommes-hommes, donc ils recherchent leur moitié homme. D'autres étaient femmes-femmes et d'autres étaient hommes-femmes ou femmes-hommes. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il explique la diversité des. Enfin, qui explique le mariage pour tous, en fait. C'est dans Platon. Hein. Bon. Alors voilà pour Athénagore. On a quand même des pages hein, pour dire toutes ces choses. Alors vous voyez, c'est un peu la raison pour laquelle autant le texte de la supplique et très profond. Là, on a l'impression d'être un peu plus en superficie, hein, sur la. Mais bon, d'un autre côté, la physique de l'époque, c'était quand même une physique extrêmement rudimentaire. Hein. Et là, il est obligé de repartir de là. Alors, on va passer à un autre auteur qui s'appelle.
Mélie. Ah oui.